Ce cours est dédié à la mémoire de Monsieur Edmond Ezra Safra Ben Esther, Zichrono Livracha.
Bien, mes chers amis, bonsoir. Et bienvenue à tous. Je souhaiterais consacrer le cours de ce soir à un hommage au Rav Shach, Zecher Tzadik Livracha, dont je pense tout le monde a entendu parler. Mais je voudrais à mon tour dire ce que j'éprouve devant ce que je qualifie d'un événement énorme, immense. Pour beaucoup de gens, le Rav Shach était d'abord un homme très âgé. Il est mort à l'âge de 107 ans, c'est pas banal. Et c'est en soi un événement que de perdre un maître de cet âge. Pour beaucoup d'autres, il y avait tant de monde à son enterrement qu'il était très difficile de mesurer la foule, évaluée par la police à plus de 400 000 personnes, certainement davantage. Dans tous les cas, dans un pays petit comme Israël, avec un décès un jeudi soir et un enterrement le vendredi matin, une foule de gens n'ont pas pu y être. Je donne mon exemple personnel. Je me trouvais en Israël lundi, mardi, mercredi et jeudi pour différents congrès. Et je suis rentré jeudi soir. Et c'est en arrivant à Paris que j'ai appris son décès. Il va de soi, pour ne donner que mon exemple, que j'y serais allé. Le nombre de personnes qui non seulement connaissaient le Rav, mais le vénéraient, qui se trouvaient à Paris, à New York, ou ailleurs, n'ont bien évidemment pas eu le temps de s'y rendre. Il va de soi que dans la tradition religieuse, dans beaucoup d'endroits, dont Bnei Brak, les femmes ne se rendent pas au cimetière. Pourtant, elles auraient été sûrement aussi nombreuses que les hommes. Il va de soi que de très nombreux enfants auraient souhaité y être et qu'ils n'y sont pas allés, je crois. Qu'il ne serait pas exagéré de dire que si on avait fait ce que l'on appelle des funérailles nationales, comme cela se fait pour un chef d'État, en Israël ou ailleurs, il y aurait eu bien plus qu'un million de personnes. Et en fait, ce n'est pas tant pour grandir le chiffre que je dis cela, parce que je crois qu'il y aurait dû y avoir 12 millions de personnes. Ce Rav était indéniablement un guide pour le peuple juif, et sûrement de très nombreux livres décriront sa vie, donneront les étapes de son existence, nous indiqueront par des récits dans toutes les langues du monde qu'est-ce qu'il a été, qu'est-ce qu'il a apporté. Moi, je voudrais ce soir vous dire ce que sans doute vous ne lirez nulle part. Pour une raison très simple, c'est que j'estimais que je devais à mon noyau d'élèves, à mon humble niveau, le devoir de dire ce que moi je dois à ce maître. Voilà un homme que j'ai consulté très très souvent. Chaque fois que je rentrais chez lui, il était souvent très fatigué, vu son âge. Il ne dormait pour ainsi dire jamais, somnolait de temps en temps, mais était toujours disponible. Non seulement il était inutile d'avoir un secrétaire, de prendre un rendez-vous, il suffisait de rentrer. Parfois il pouvait, parfois il ne pouvait pas. Mais chaque fois qu'il le pouvait, les entretiens avec lui étaient d'une extraordinaire intensité. Et c'est l'occasion pour moi de vous expliquer ce que l'on appelle dans la terminologie hébraïque un gadol ador, un grand dans la génération. Il existe des maîtres qui sont très savants, qui sont capables, par leur savoir encyclopédique, par leur analyse extrêmement fine des textes, par leur intelligence supérieure, de nous donner des cours de très haut niveau. Ce n'est pas ce que l'on appelle dans la tradition un gadol ador, le grand de la génération. Le grand de la génération est bien sûr un sage. Il n'est certainement pas un ignorant. Le Rav Shach, pendant plus de 50 ans, a été le Rosh Yeshiva, c'est-à-dire le recteur de l'académie talmudique de la plus grande yeshiva du monde, et numériquement, et au plan du niveau. Et qu'il est évident que quand on est à ce poste-là, on est quelqu'un. Mais ce n'était pas cela qui faisait de lui le Gadol Hador. Le Gadol Hador est un homme d'une autre dimension. C'est quelqu'un qui dispose de deux choses que moi j'ai pu expérimenter. Je n'étais pas son élève, je n'ai donc pas bénéficié d'un cours comme les dizaines et dizaines de milliers de talmidim, d'élèves de la yeshiva de Poniovitch, sa yeshiva, ont pu suivre. Il en est de très nombreux en France, ils sont innombrables en Israël, quasiment. On peut dire que 80% des rachei yeshivot, des recteurs d'académie que l'on connaît partout dans le monde, ont été ses élèves, ont suivi pendant quelque temps ses cours. À Paris, tous les rabbanim que vous connaissez ont été ses élèves à un moment donné. Ce n'est pas de cela dont je voudrais vous parler. C'est de cette autre dimension. Cette autre dimension qu'on appelle le Gadol Hador, c'est un homme qui est capable, par sa sagesse, d'une part, mais par ses qualités morales, d'autre part, et par son analyse des choses, de percevoir ce qu'il faut pour la génération. Ça veut dire d'être un guide. Guide, il pouvait l'être pour des individus qui allaient lui demander des conseils, mais il l'était surtout, de façon plus générale, pour tous ceux qui avaient besoin d'un avis pour savoir comment mener les communautés, comment diriger les institutions, vers quoi, sur quoi mettre l'accent dans un enseignement, les points fragiles d'une génération. Et ce qui lui donnait cette force, ce n'était pas seulement son grand âge, c'était cette capacité d'avoir une vision des problèmes extrêmement aiguë. Quand vous entriez chez ce rave, vous étiez unique, unique pour lui. Ce sentiment extrêmement rassurant, c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu. Ça vous est arrivé sans doute, moi ça m'arrive assez fréquemment, d'être devant des gens très importants. Des gens riches, des gens qui ont du pouvoir politique. On vous donne souvent l'impression de vous dire « Bon, écoutez, je vous consacre 5 minutes, mais dépêchez-vous. » Cette impatience qui caractérise les gens occupés, qui vous donne le sentiment que vous les dérangez, qui n'ont pas que ça à faire. Ils veulent bien, mais jamais, chez un gadol, on dirait qu'il avait tout le temps. C'était inutile de s'excuser d'avoir été reçu, c'était déjà du temps perdu. Parce que pour lui, une seule chose comptait, c'est de ne jamais perdre de temps. Même lui n'aurait jamais rêvé d'en disposer d'autant. Quand on a vécu 107 ans, on a eu du temps. Mais ce qui est surtout extraordinaire, c'est que comme on l'a dit pour Abraham dans la lecture récente de la Torah, ce temps, il l'a vraiment occupé. Et ça nous donne une très grande leçon. Voilà quelqu'un qui, quand vous recevez, était penché sur un livre du Talmud. Sa vue, bien sûr, avait faibli. Et il avait un éclairage très puissant au-dessus de lui. Il avait le doigt posé sur le livre. Quand vous entriez, vous accueillez avec chaleur, sourire, il vous écoutait. Vous partiez, il était déjà dans le mot d'après de sa Gemara. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une seconde de perdu, au sens réel du terme. Il y a quelques années, il s'est fait opérer, et celui qui était auprès de lui est un garçon d'origine française qui me connaissait bien, qui savait que le Rav m'affectionnait. Il m'a téléphoné et il m'a demandé de faire des prières pour le Rav. J'ai aussitôt fait une émission de radio sur nos radios communautaires. Et quelques heures après, le même jeune homme m'appelle. Il me dit « Baruch Hashem, grâce à Dieu, l'opération s'est bien passée. » Il a demandé à être ramené chez lui. Et il m'a dit comme ça, Rav, vous me croirez si vous voudrez. L'effet de l'anesthésie à peine terminé, il a demandé qu'on lui apporte un livre de Gemara, qu'il n'avait pas la force de tenir. On lui avait posé pour qu'il reste devant lui, couché. Mais déjà, il était replongé dans l'étude. Il n'y avait pas de nuit, il n'y avait pas de jour, il n'y avait pas de Shabbat, il n'y avait pas de Yom Tov, il n'y avait pas de jour de semaine, il y avait la vie. Et pour lui, la priorité, c'était l'étude. Alors ça lui donnait une force énorme de pouvoir encourager tous les juifs du monde à étudier et à étudier sans cesse. Et je me souviens que l'un des entretiens les plus longs que j'ai eu avec lui, lui dont le temps était si précieux, qu'on avait l'impression non qu'on le dérangeait, mais qu'on volait du temps aux autres. Alors moi j'étais toujours gêné, et je lui ai posé très peu de questions ce qui me concerne à moi, mais je le faisais pour la communauté, pour savoir vers où il fallait se diriger, dans quel sens, vers quel sens il fallait plutôt mettre l'accent. Et voilà qu'un jour, c'est lui qui m'a retenu 1h15, inouïe. Renseignez-vous autour de vous si quelqu'un un jour a été reçu 1h15, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Mais ce n'était pas pour mon mérite à moi, c'était pour votre mérite à vous. Cette communauté de France dont il avait entendu parler, qu'il ne connaissait pas, et dont il savait qu'il y avait là une communauté qui avait soif de Torah. Et en un mot, je résume cet entretien, il m'a dit « Sache qu'une seule chose sauvera les Juifs, une seule, la Torah. Voilà ce que tu as à faire. Et quand bien même dans tout ton travail, lorsque parfois, comme tout homme, on a des doutes, on se dit vraiment « Est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que d'abord je dois venir là où on m'a demandé de venir ? Est-ce que je dois rester là où on m'a demandé de rester ? Est-ce que c'est pas quelque part qu'on a envie, nous aussi, de continuer ?» Vous savez, l'homme est très proche de lui-même. Et la plupart d'entre nous, nous ne voyons pas nos propres défauts. On a l'impression que quand on demande un conseil, on veut juste une confirmation. On a tellement notre propre analyse des choses que quand on pose une question, c'est qu'en fait, on a préparé la réponse. Chez Arav, de cette dimension-là, il n'y avait rien de tout ça. Il essayait d'élaguer pour nous faire toucher du doigt ce que j'appellerais la nekudata emet, c'est-à-dire le point où tout est vrai et seulement vrai. Ça veut dire celui dans lequel on ne tenait ni compte de l'opinion publique, ni compte de l'opinion du plus grand nombre, ni en fonction des circonstances, ni ce qui va se dire, mais ce qui est vrai. Il faut une force extraordinaire pour être totalement imperméable à tout ce que l'on peut dire de lui, de la Torah. Cette conviction du vrai était tellement forte en lui qu'on savait que la réponse, elle venait comme du Sinaï, c'est-à-dire de quelque chose qui était inspiré. Et c'est là où j'arrive à la vraie définition du Gadol Hador, celui qui est quelque part un être inspiré par Dieu. Ce n'était pas le genre de rabbin à distribuer des bénédictions. Il n'y avait pas de queue devant sa porte car il ne voulait jamais s'arrêter d'étudier. Il refusait de recevoir des gens pour des entretiens privés car il n'en aurait jamais fini. Il y avait un filtrage extrêmement strict de sa petite maison qui était à 10 mètres de la yeshiva, mais n'étaient reçus que ceux qui avaient un problème qui concernait les autres. Ça prouve la vraie générosité. Et le peuple juif ne croyait pas qu'il y était indifférent. S'il ne pouvait pas recevoir tout le monde, il recevait ses chefs, ses dirigeants, ses guides, ses maîtres, parce qu'il savait qu'à travers eux, c'était le message qui passait. Et dans cette perspective-là, j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi il était tellement, pardonnez-moi, omnibulé par l'étude. Dans la Torah, il y a d'autres choses à faire. C'est pas plus important, comme le disent dans d'autres milieux, d'aller s'occuper des autres, de faire des caisses de charité, d'aller marier des jeunes gens, de s'occuper des orphelins. Il y a des causes très nobles à défendre. D'avoir un travail et puis en même temps d'étudier un peu, lui, Torah, 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 rien que cela. Et si la génération dans laquelle nous nous trouvons a connu une telle expansion dans le monde du Limoud, je crois que nous ne lui devons en très grande partie. Ça veut dire que cette école que l'on appelle dans les livres d'histoire l'école lituanienne, ça veut dire cette portion de la Russie, de l'URSS d'alors, où vraiment les yeshivot étaient le cœur de la vie juive, ne croyez pas que c'était pour des raisons historiques et qu'il appartenait simplement, par opposition à un monde de la chassidoute, plus porté vers le service de Dieu, la prière, le service vers autrui, qu'il était indifférent à ces choses-là. Mais, comme ce fameux Ruach HaKodesh, ce souffle, cet esprit divin, qui inspire les grands hommes de Torah, il avait senti que dans cette génération, il était nécessaire de garder ce cap. Pourquoi ? Il y a un texte qui dit, dans la Gemara de Avodah Zara, page 19, que les Romains, quand ils avaient voulu torturer puis tuer les grands rabbanim de l'époque, du Talmud, avaient notamment tué l'un d'entre eux de façon atroce, Rabbi Hananiah ben Teradion, en le mettant sur un bûcher. Ils l'ont brûlé, ce rabbin. Mais ils l'ont brûlé comment ? Ils avaient mis autour de lui, après l'avoir déshabillé, un rouleau de Torah. Il l'avait entouré d'un Sefer Torah. Mais ils avaient mis entre le Sefer Torah et son corps du coton imbibé d'eau. Et ils avaient mis dessous des sarments de vigne pour que le feu soit vif. Le feu était fort, mais le rabbin se consumait doucement parce qu'il était imbibé d'eau. Alors sa souffrance a été très longue. Et son agonie, que le Talmud décrit, alors que les élèves disaient à leur Rav d'abjurer et que celui-ci a refusé, ils lui ont dit « Ouvre-moi la bouche, comme ça la fumée va rentrer, tu vas mourir plus vite. » Il a dit « Même un petit moment, je ne veux pas rendre mon âme à Dieu avant qu'il me la prenne. » Et ce rabbin, le Talmud dit de lui une phrase qui restait célèbre. Le Sefer Torah, le parchemin, a brûlé, mais les lettres se sont envolées. Voilà ce que dit le Talmud. Aklaf nisraf ve'aotiot porchot ba'avir. Le parchemin se consumait et les lettres s'envolaient. Et un chacham a écrit sur cette Gemara une chose absolument extraordinaire. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire que les lettres volaient ? Le sens simple que moi j'avais compris, que tout le monde avait, je crois, compris dans ce texte du Talmud, ça voulait dire qu'on ne peut pas brûler la Torah. On peut brûler le corps des Juifs, mais pas leur âme. On peut brûler le parchemin, mais pas l'esprit de la Torah. Et c'est déjà très fort de comprendre cette idée. Mais ce rav a expliqué plus loin. Il a dit, en fait, que les lettres, elles restaient autour du rabbin brûlé. Elles étaient quoi ? Elles étaient en attente d'être prises. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui pouvaient prendre la Torah de ce rav, en quelque sorte capter les lettres qui s'envolaient de son corps. Comme la Torah qu'il avait apprise lui-même, qu'il avait étudiée, et qu'il n'avait pas pu transmettre parce qu'il était mort. Alors il fallait que quelqu'un vienne les chercher. Et ce Chacham disait, voilà pourquoi la génération qui a suivi Rabbi Hananiah ben Teradion, c'est une génération, il y a bientôt 2000 ans, où on a énormément étudié la Torah. Ce sont les générations qui ont donné plus tard les maîtres de la Mishnah, la base du Talmud, qui a traversé l'histoire, et qui demeure encore aujourd'hui notre code de référence, parce qu'on a brûlé ces lettres. Alors j'ai entendu dire que le Rav Char avait sans doute été de ceux qui pensaient que en 39-45, il y a beaucoup de Juifs qui ont été brûlés. Et parmi ces Juifs, il y avait beaucoup de rabbanim qui avaient beaucoup de Torah. Et cette Torah, ils n'ont pas pu l'enseigner. Ils sont morts avant. Pour ne prendre que la fameuse yeshiva de Slobodka, parce qu'il était proche de cette yeshiva, eh bien, il y avait 400 élèves, plus leur maître. Et le Rav a raconté à un survivant, parce qu'il n'y en a eu qu'un, tous les élèves de la yeshiva, tous les rabbanim de cette yeshiva ont été tués par les nazis, le marchevin. Sauf un, qui a rapporté la dernière sikha du Rav, le dernier cours du Rav, dans lequel, au lieu de se révolter contre Dieu, ce Rav rappelait toutes les insuffisances de cette génération, de tout ce que lui n'avait pas fait, de tout ce qu'il fallait faire, de tout ce qui restait à faire. Et pour ne prendre que cet exemple-là, ils ont été des centaines à partir en fumée avec leur Torah. Alors où étaient les lettres ? Elles étaient au-dessus de toutes ces âmes. Elles flottaient dans l'air. Ce Rav a sans doute compris que ces lettres-là, il fallait les capter. Il fallait les tirer. Il fallait les réinvestir. Et cette phrase, on me l'a transmise au nom du Rav de Poniovitch, qui s'appelait Rav Kahanman, dont le fils est toujours vivant. Un autre rescapé des camps de la mort, qui a eu la vision, justement, de faire venir le Rav Char comme Rosh Yeshiva, et qui était de ses maîtres, qui voyait, lorsqu'il est revenu, et qu'il avait perdu sa famille, y compris femme et enfant, pendant la Shoah, il est venu dans un endroit qui était à l'époque des collines de sable, des dunes. Il a acheté cet endroit pour 3 sous. Et il a dit, ici, je vais faire la plus grande yeshiva du monde. Il avait déjà près de 60 ans. Il a reconstruit une famille. Il a eu un enfant qui restait rescapé de cette période. Cet enfant, je le connais, il est toujours vivant. Il est venu souvent passer des séjours chez moi à la maison, ici à Paris. Et c'est certainement l'homme qui est le plus proche de Rav Shach. Et cet homme-là, Rabbi Abraham Kahneman Sheikhyeh, lui-même a transmis au nom de son père qu'après la guerre, on n'a jamais aussi bien étudié. Jamais la Torah n'a été aussi étudiée depuis des générations et des générations. Précisément, c'est là où on reconnaît le Gadol Hador, celui qui est capable d'infléchir le sens d'une génération, de dire maintenant vous voulez faire Teshuvah, vous voulez apprendre la Torah, allez, ayez le courage d'abandonner vos études pendant quelque temps, votre travail pendant quelque temps, consacrez-vous à l'étude de la Torah. Et on voit que partout où ça s'est fait, il y a eu une réussite exceptionnelle dans notre génération. Cette vision des choses, eh bien, je crois qu'il avait réussi à la transmettre, quelles que soient les pressions, les difficultés. Je serais très malheureux que vous n'appreniez de lui que ce qu'une fois de plus les médias en diront, ou en ont dit. Comme d'habitude, les médias français ou ailleurs ont été extrêmement durs avec ce rave, qu'on a traité de tous les maux, d'extrémistes, d'ultra-orthodoxes, moi à la mode. On l'appelait la frange dure du peuple juif. Moi, j'ai d'ailleurs bénéficié de cette aura en me disant « il est un élève du Rav Shach ». Genre, il est contaminé lui aussi. Et tous ceux qui parlent de lui, je pense qu'il a dû leur pardonner, du moins j'espère pour eux, et que dans tous les cas, il ne l'a pas su. Et que dans tous les cas, ça n'aurait rien changé. Et que dans tous les cas, c'était faux. Parce que quand on a connu le Rav de Cyprès, et qu'on savait combien il aimait les Juifs, tous les Juifs, et qu'il était préoccupé par tous les problèmes, et qu'il avait une analyse sur toutes les choses, tout de suite on disait en Israël notamment, « Ah, il s'occupe de politique. » Dès qu'un rabbin exprime une opinion sur la société, il s'occupe de politique, genre, il n'est plus à la synagogue. Cette vision très fragmentaire de l'identité juive, nous on la refuse. Vous savez bien, on prend des coups, ça fait rien. Lui, il était de ceux qui ont pris des coups. Il y en a eu d'autres avant lui. Il y en aura d'autres après lui. Et je crois que même, il avait, chose assez étrange, un fils qui n'est pas devenu un chacham. Comme pour nous rappeler que la sagesse n'est pas héréditaire. Et cet homme, aujourd'hui bien évidemment d'un grand âge, était resté en dehors du monde des yeshivot. Il était même un parachutiste dans l'armée d'Israël. Il est venu assister à l'enterrement de son père. Et paraît-il que ceux qui étaient l'ont dit, c'est extraordinairement déchirant de voir cet homme âgé, je crois, de 80 ans, demander pardon à son père en disant, écoutez bien, toi tu m'as compris et moi je t'ai pas compris. C'est-à-dire que quand il venait, quand cet homme venait sans barbe, sans Torah, peut-être plutôt même avec un uniforme de l'armée, dans un milieu où on n'était pas spécialement habitué à voir ce look, non seulement son père ne le rejetait pas, mais il lui consacrait tout le temps. Il lui parlait avec une extrême tendresse et il l'aimait comme il était. Ça veut dire qu'il y a des gens, ce qu'on appelle la vraie intolérance d'un côté ou de l'autre, c'est quand on n'accepte pas les gens comme ils sont. Ça ne veut pas dire qu'on est content qu'ils soient comme ils sont. Mais si on les accepte comme ils sont, c'est la preuve qu'on les aime vraiment. Mais vouloir leur bien, c'est la preuve qu'on les aime encore davantage. Et voilà ce qu'il était. Il acceptait qu'on ne soit pas comme lui, mais il aurait voulu qu'on soit mieux que lui. Et en fait, cette démarche-là, il avait à l'égard de tous. Et pour ne pas vous couvrir simplement d'épisodes et vous raconter comme on le fait ici et là, moi j'ai entendu 2 épisodes que je trouve très touchants, situant bien qui était cet homme. Avant son mariage, on lui avait offert une montre, comme ça se faisait à l'époque, un bijou. On était évidemment très pauvres dans ces milieux, et on lui avait offert une couverture. Et au bout de quelques jours, une des personnes qui étudiait avec lui a remarqué qu'il n'avait plus sa montre. Il lui a dit, où est ta montre, tu l'as perdue? Il a dit, non, non, il a évité le sujet, l'autre a insisté. Il a fini par lui avouer qu'il l'avait offerte à quelqu'un qui n'avait pas du tout d'argent. Il a dit, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une montre? D'une belle montre. Il avait offert la montre. Avec la couverture, c'était la même chose. L'autre lui a dit, mais il faut bien que tu te couvres. Il a dit, oui, il y en a qui ont plus froid que moi. Il n'en avait pas fait un article dans la presse. Il n'en aurait jamais parlé si on ne l'avait pas interrogé. C'était simple, mais c'était vrai. Quand, même les dernières années, quand il marchait encore, il allait dans cette immense yeshiva de Poniovitch, où un jour, si vous pouvez y aller, pour les dames, ce sera difficile, mais les messieurs, essayez d'y aller. C'est extraordinairement impressionnant. C'est une ruche bourdonnante dans laquelle il y a 1500 personnes qui étudient à crier la Torah. Il apparaissait de temps en temps, en se cachant parce qu'il ne voulait pas qu'on se lève devant lui. Et quand il avait besoin d'un livre, il allait le chercher lui à la bibliothèque. Pour cet homme, un pas, c'était un kilomètre pour nous. Il le faisait sans demander à personne. C'est lui qui portait le livre lourd. Quand un élève se proposait spontanément de le ramener à sa place pour qu'il puisse l'étudier, il refusait. Il rappelait cet adage du Talmud qui dit que la Torah, il ne faut pas en faire une bêche pour se servir. Il ne voulait pas qu'on le serve parce qu'il était chacham. Et il avait même cette attention-là, il est devenu veuf vers les dernières années de sa vie et il ne s'est pas remarié. Certains rabbanim âgés se remarient même s'ils ne peuvent plus avoir de vie conjugale, simplement parce que la Torah dit « Lo tov eyot adam levado » « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et un verset du prophète Isaïe dit que « La shevet lo tohu bera'a, la shevet yetzara » Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il soit un tohu, et c'est pour qu'il soit habité qu'il l'a bâti, ce monde. Et de là-bas, le Shulchan Aruch, dans le Evan Ezer, dans le premier chapitre, dit que même un homme veuf, d'un âge avancé, c'est bien qu'il ait une épouse, pour qu'ils vivent ensemble, qu'il y ait un échange, quel qu'en soit le niveau. Il n'a jamais voulu, parce qu'il a dit, ma femme, qui est la seule femme que j'ai connue, quand elle m'a connu, j'étais un simple petit élève. Aujourd'hui, que je suis connu dans le monde entier, il disait ça sans flagronnerie. Simplement, c'était vrai. Alors, il fallait le dire quand c'est vrai. Il disait, je ne veux pas que quelqu'un d'autre jouisse de ma popularité. Dirait-elle, pendant des dizaines d'années, elle m'a accompagné dans ma vie, dans l'anonymat. Et maintenant, viendrait une femme dont on dirait, elle est la femme du Rav Shach. Il n'a pas voulu. Je trouvais que c'était un très bel hommage à une épouse défunte. Que de ne pas vouloir en prendre une autre, non pas seulement par fidélité à la première, mais quelque part par une trahison à l'égard de lui-même. Et cette grande humanité, c'est ce dont il faisait preuve, pas seulement à l'égard de ses proches, qu'il ne favorisait jamais. Il y avait des gens très riches qui lui confiaient beaucoup d'argent pour qu'il puisse les répartir. Il est notoirement connu qu'il n'a jamais donné d'argent à ses proches, qui en avaient sûrement autant besoin que les autres. Et mieux, c'est de sa poche qu'il aidait, dans la mesure de ses maigres moyens, tous ceux qu'il pouvait. Et les maigres biens qu'il a laissés en partant, il a déjà écrit dans son testament qu'il les léguait à la yeshiva. Il voulait que personne ne profite du peu qu'il avait. Tout pour la Torah, jusqu'au bout et même après sa mort. C'est de ces petites choses qu'on apprend qu'est-ce qu'un grand homme. Et jusque dans le moindre détail, il avait réussi à être celui qui, à chaque fois, était capable de penser aux autres. Alors, je voulais vous dire une idée, peut-être un peu dure à écouter, mais que j'ai le devoir de vous dire. Quand, dit le Talmud dans la Gemara de Shabbat, page 30, quand un juste quitte ce monde, ce n'est pas à cause de ses fautes. La Gemara dit « Tzadik nitpas ba'avonador ». C'est la génération qui n'a pas mérité de le garder plus longtemps. Et quand il part, c'est pour une autre raison. C'est pour une raison que nous sommes incapables de savoir, mais dont nous pouvons juste supposer une chose. C'est qu'il continue d'être utile là où il est. Il y a, je crois en 1954, si j'ai bonne mémoire, un grand maître qui s'appelait le Chazon Ish est décédé. Ce maître était une autorité de halakha, de législation juive, extrêmement respecté. Sans doute l'un des plus respectés de la génération d'avant. Lorsque ce sage est mort, peu de temps après lui, est mort un deuxième chacham, d'un autre genre, qui s'appelait Rav Eliyahu Dessler, le Mirtav Me'Eliyahu, dont les œuvres ont d'ailleurs été traduites en français. Si vous tombez sur ce livre, je vous recommande vivement de l'acheter. C'est extraordinaire. Mirtav Me'Eliyahu, du Rav Eliaou Dessler. Eh bien, ce Rav est mort peu de temps après lui. Et voilà qu'il y avait à l'époque un Rav à Jérusalem qui s'appelait Rav Zvi Psar Frank et qui a eu un rêve. Et quand il a eu ce rêve, c'était le Chazon Ish qui lui parlait. Il lui a dit, je suis dans le monde d'en haut et Rav Dessler est venu me rejoindre. Il nous faut maintenant faire un Bet Din car Akadosh Baruch Hu a décidé d'une Gezera, d'une décision grave pour la génération. Et il faut être trois pour annuler le décret. Viens nous rejoindre. Et le Rav, dans son sommeil, a dit, je veux pas, je suis trop jeune. C'était un grand chacham, mais il avait encore affaire ici. Il a demandé à pas partir. Et le lendemain, à son réveil, il apprend que c'est un autre Rav, Rav Melster, qui avait quitté ce monde. Un grand chacham, qui était d'ailleurs, dont la femme du Rav Shach était de sa famille à ce Rav. Et voilà que c'est lui qui est parti pour annuler la Gezera. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que comme ce fut le cas pour tous les grands maîtres de toutes les générations, si le Rav est là-haut, c'est qu'il est parti pour nous protéger. Il est parti pour annuler quelque chose. Et autant le décès d'un Rav est quelque chose de dur à vivre, autant il faut être conscient dans la force qu'il peut avoir après sa mort. Et pourquoi j'ai tellement voulu faire le cours à sa mémoire ce soir. C'est parce que je vais vous lire les quelques mots, quatre lignes, qu'il a écrites de sa main dans son testament. Je vous les lis en hébreu parce que c'est beau et je vous les traduis aussitôt. V'chen ani mevakesh. Aussi je demande. Mikol elu talmidim. Ayod'im. Shekibluto elet mimeni. Je demande à tous les élèves qui ont compris, qui savent étudier la Torah, sous-entendu, qui ont reçu un quelconque profit de moi pendant ma vie. Hen batora, que ce soit dans l'étude. Hen beir atashem, que ce soit dans la crainte de Dieu. Hen bemidot, que ce soit dans les qualités morales que j'ai pu leur enseigner. Sheyasu chesed imadi. Je leur demande de me faire une faveur, de me rendre un service. Lui, il écrit ça avant sa mort. Sheilmedu ba'adi lui nishmati. Je leur demande d'étudier pour le repos de mon âme afilu mishna achatz, même une seule mishna, c'est-à-dire un petit texte de Torah, o machashava achat shel musar, ou un petit passage d'édification morale de musar, de pensée juive. Et ce sera mon seul salaire. Il a bien évidemment jamais voulu se faire payer pour ce qu'il faisait. Je vous répète, il est mort avec rien. Mais il a demandé que ce salaire-là, on le lui verse. Ça veut dire que tous les gens qui étudieront après sa mort, à sa mémoire, oui, il a dit comme cela, « Ki gam ani masarti et nafshi le'atzlachatrem belimud » Il dit « Sachez que moi j'ai donné toute ma vie pour que vous réussissiez dans l'étude de la Torah. Ve'im yé beyadi la'asot, et si j'en ai la possibilité, ul amlitz letovatrem, et c'est beninéder. Et si je peux venir à votre secours pour être un avocat devant le Tout-Puissant, je le ferai beninéder avec l'aide de Dieu. Je trouvais ces choses tellement extraordinaires. Il a terminé en disant, ut filati, she tiske la'amod lifne akadosh baruchu, achar teshuva shelema, et je prie pour que je puisse me présenter devant Dieu après une teshuva totale. Lui, parlez de lui. Est-ce que je puisse mériter de faire teshuva? On peut se dire, mais enfin, quel teshuva? De quoi? Si lui doit faire teshuva, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui? Eh bien, c'est dans ces petites choses-là qu'on reconnaît la grandeur. C'est quelqu'un qui faisait toujours le birkat Amazon sur un livre. Il avait dit, parce qu'un jour, je me suis aperçu que je sautais quelques mots. Birkat Amazon, la prière après manger, tout le monde l'a fait. On mange le pain, on mange aussi la prière. Il faut le reconnaître. Et en fait, depuis que j'ai entendu qu'il le faisait, j'ai essayé moi aussi de le faire. C'est rien. Prendre une résolution dans notre vie juive, essayer d'étudier un passage en disant, je le fais à la mémoire du Rav Shach. Vous avez un avocat là-haut, ça vaut la peine. Pour 5 minutes, vous savez ce que ça peut rapporter gros. d'avoir quelqu'un de sa dimension qui a promis de venir à notre secours et nous apporter quelque chose individuellement, chacun. Et je crois qu'en nous faisant ce soir l'honneur d'être venu et en écoutant quelques paroles à la mémoire de ce grand sadique, vous êtes, Baruch HaShem, en train d'accomplir son testament. Alors moi, je voudrais, avant de vous dire deux choses dans un instant pour conclure, vous donner juste, Leilou Nishmato, un enseignement. Dans la Gemara de Sanhedrin, page 101, on nous enseigne comme cela. Tanoura Banan. Keshechala Rabbi Eliezer, quand Rabbi Eliezer, on est à l'époque du Talmud, un très grand maître qui s'appelait Rabbi Eliezer est tombé malade. Nichnesu arba zekenim levakro. Quatre sages sont entrés pour lui rendre visite. Quand dans la Gemara on dit il est malade, ça ne veut pas dire qu'il avait un rhume. C'est-à-dire qu'on savait que c'était une maladie incurable et qui risquait de quitter ce monde. Alors, quatre haramim sont rentrés. Ces haramim, c'était Rabbi Tarfon, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiba. Quatre grands rabbanim. Alors le premier à prendre la parole fut Rabbi Tarfon. Il a dit comme cela, « Tov ata l'Israël mitipa shel geshamim. » Tu es plus bienfaisant pour le peuple juif que la pluie qui tombe. Pourquoi, dit-il ? Parce que la pluie tombe dans ce monde et elle est bienfaisante pour ce monde. Grâce à la pluie, les plantes peuvent pousser, les fruits peuvent venir. Et toi, tu es bon, toi, notre maître, dans ce monde-ci et dans le monde futur. Car tes conseils, sous-entendu, nous guident dans ce monde-ci et nous protégeront dans le monde de l'au-delà. Alors a pris ensuite la parole Rabbi Yoshua. Et il a dit, « Tov ata l'Israël migalgal hama. » Tu es encore mieux pour le peuple juif que le soleil. Car le soleil est bienfaisant dans ce monde-ci, mais toi, tu es bienfaisant dans ce monde-ci et dans le monde futur. Le troisième à prendre la parole était Rabbi Elazar ben Azaria, qui a dit, « Notre maître est mieux pour le peuple juif, Tov ata l'Israël, Yoter mi av va'em. Tu es mieux que notre père et notre mère, car notre père et notre mère nous ont conduits dans ce monde-ci, et toi tu nous conduis dans ce monde-ci, et tu nous amènes dans le monde futur. » Quatrième rabbin, Rabbi Akiba, s'approche à son tour, et il prend la parole. Et il dit, Chavivim isurin, chères sont les épreuves, grandes sont les épreuves. Alors, Rabbi Eliezer, qui n'avait apparemment pas branché, dit alors, « Samechouni, soutenez-moi, ve'eshme'a divré Akiba Talmidi, que j'écoute ce que dit mon élève Rabbi Akiba, il le fait répéter. » Et Rabbi Akiba lui dit, « Chères sont les épreuves. » Ensuite, le Talmud développe, et Rabbi Akiba lui dit, « Mais Rabbi, j'ai rien dit moi, c'est toi qui nous l'as enseigné. » Et il lui donne une preuve dans la Torah. Il lui montre qu'il y avait un roi qui s'appelait Ézéchias qui n'avait pas fait teshuva, n'avait pas guéri, tant qu'il n'avait pas été malade. Pardon, ne s'était pas rapproché de Dieu tant qu'il n'avait pas été malade. Et dans l'épreuve de la maladie, il a changé complètement son comportement. Alors il lui donne cette preuve. Évidemment, tout le monde reste sans voix. Qu'est-ce qu'a voulu dire Rabbi Akiba ? Alors il dit ainsi, il n'a pas dit différemment des autres élèves. Il a dit simplement, toi notre maître, tu nous fais du bien. C'est quoi faire du bien ? C'est la pluie, c'est le soleil, c'est notre père et notre mère. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que c'est un bienfait qu'on mesure immédiatement, parce que quand la pluie tombe, eh bien la végétation pousse. Qu'est-ce que c'est que la pluie ? C'est ce qui permet à une plante de pousser. Qu'est-ce que le soleil ? C'est ce qui permet à la plante de s'ouvrir. Qu'est-ce que le père et la mère ? C'est ceux qui amènent l'enfant au monde, qui l'élèvent, qui lui donnent à manger, qui le soignent, qui s'occupent de lui. Et Rabbi Akiba dit, Rabbi, c'est toi qui nous as appris que le plus grand de tous les maîtres, c'est l'épreuve dans la vie. Et alors Rabbi Eliezer a compris et il a été soulagé. Il a compris que son élève lui rappelait ce que lui-même avait enseigné, que dans la vie le plus dur, c'est d'être capable d'apprendre des épreuves. Et que ce que l'on appelle le rav, c'est comme l'épreuve, ce qui nous redresse. Des gens qui ont souffert, indéniablement dans la vie, ils ont compris. Mais on s'aperçoit ici que des fois, ce n'est pas la peine de souffrir pour comprendre. Et qu'en fait, celui qui apprend sans souffrir, il n'a pas besoin d'épreuves. Puisque ce qui compte, ce n'est pas l'épreuve, mais son enseignement. Si je sais tirer l'enseignement sans l'épreuve, j'ai économisé une énergie extraordinaire dans la vie. Et quand on demande à Dieu de ne pas nous faire tomber malade, c'est pas qu'on a peur de la mort. C'est pas qu'on redoute la maladie. C'est qu'on a peur que ça nous empêche de comprendre. Qu'on soit pas capable de tirer la leçon. De souffrir pour rien. Et ça, c'est terrible. Et cette épreuve-là, on peut en être dispensé. Un élève attentif, c'est quelqu'un qui va tellement être attentif à la vie que de n'importe quoi, il peut apprendre. Je vous avais dit moi-même qu'un texte que j'affectionne particulièrement dit que par la peur, on peut faire teshuva. La peur, c'est quoi? Ça veut dire que quelqu'un échappe à un accident, il est effrayé de ce qui aurait pu lui arriver, et il réalise dans sa tête que si cet accident lui était arrivé, il aurait eu telle et telle et telle et telle souffrance, il les a pas eues, et il a compris. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'aller plus loin. Plus on comprend vite, moins on souffre. C'est ce qu'a voulu dire Rabbi Akiba. Et cette grande leçon de vie, c'est du rav qu'on apprend. Alors, parfois, on peut dire des choses, quoi? Ils ont voulu, ces hommes, dire une idée qui était toujours la même. On a besoin de notre rav. On veut le garder. Cette idée-là, je vais vous donner deux exemples que je trouve, moi, très émouvants, dans lesquels on voit qui a voulu garder son rav. On dit que lorsque est venu le moment de la mort de Rabbi, Rabbeinu Akadosh, le rédacteur de la Mishnah, qui est mort peu après, environ en l'an 200 de notre ère, eh bien, tous les élèves étaient réunis autour du Rav, autour de son lit, en train de prier pour ne pas qu'il meure. Et ce Rav avait une servante dont je vous ai une fois parlé, parce que c'est grâce à elle qu'un jour, Rabbi, qui était tombé malade, avait survécu à sa maladie. Je vous rappelle vite l'épisode pour que vous situiez cette dame. Un jour, Rabbi marchait dans la rue avec des élèves, et puis il y avait un abattoir pas loin, il y a une brebis qui se sauve du troupeau, et au lieu d'aller vers l'abattoir, elle se réfugie entre les jambes du rave. Le rave la repousse, en disant à cette brebis, va vers ton destin. Tout de suite après, le rave est tombé malade. Impossible de le guérir. Il était chez lui, sur son lit, lorsque sa servante, en nettoyant la maison, découvre une portée de petites souris. C'est mignon, les petites souris. Mais c'est un peu nuisible. Alors, elle s'apprêtait, comme on le faisait à l'époque, à les noyer dans l'eau, pour s'en débarrasser. Et le rabbi, la voyant faire, il lui dit, laisse-les. Tov Adonai lakol verachamav al kol ma'asav, dit le verset. L'Éternel est bon à l'égard de tous, et sa miséricorde s'étend à toutes ses créatures. Elle les a laissés vivre. Le Talmud dit que le lendemain, Rabbi a guéri. Ça veut dire qu'il avait eu un peu de cruauté à l'égard de quelqu'un, d'un animal. C'est parce qu'il a eu un peu de miséricorde que la maladie est partie comme elle est venue. Ni antibiotiques, ni rien. Et le Rav Char disait un jour que lorsque on est dans une période où il y a beaucoup de morts, quand il y a la guerre dans le monde, quand on voit, comme c'est le cas à la télé tous les jours, du sang coulé, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Il y a un renforcement de la Midat Adin, de la tribu de rigueur. La cruauté, disait le Rav, grandit dans le monde. C'est pas seulement qu'il y a des gens qui meurent et c'est déjà assez triste comme ça. Mais en plus, les gens apprennent à être cruels. On s'habitue au sang qui coule, à voir des cadavres. Quelqu'un qui est dans un endroit où ça arrive, ne fait même plus attention. Même plus attention. Les gens qui reviennent des Indes nous ont souvent raconté que des gens qui meurent de faim parfois dans la rue et ils passent indifférents côté des cadavres. C'est des scènes quotidiennes. Alors on s'habitue. Quand c'est la guerre, on s'habitue. Quand il y a des attentats, on s'habitue. Et il dit, que la cruauté grandit dans le monde. Alors qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite, sur le champ? Dès qu'on voit une image de violence, il faut faire du chesed. Il faut faire un acte de bonté. Il faut tendre la main à un pauvre. Il faut soutenir un affligé. Il faut visiter un malade. Il faut apporter un réconfort à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut faire le contraire de ce qu'on a vu. Et comme ça, on fait disparaître la cruauté dans le monde. C'est un de ces enseignements, je crois, hein, qu'il est extrêmement actuel. Alors, cette servante, quand elle assistait à la scène de tous les élèves réunis autour du Rav, qui pleuraient et qui priaient pour que le Rav ne meure pas, le Talmud dit qu'elle est montée sur le toit de la maison et qu'elle a élevé la prière suivante. Elle a dit « Maître du monde, Ha'elyonim vakshim et Rabbi, Ve'atartonim vakshim et Rabbi. » Les gens qui sont dans les hauteurs célestes, c'est-à-dire les anges, réclament l'âme de Rabbi, car il ne fait aucun doute que dans le ciel, Rabbi était attendu. Qu'un homme de cette dimension, même en haut, c'est un privilège qu'il soit là-bas. Ve'atartonim vakshim et Rabbi, mais les élèves en bas réclament Rabbi, parce qu'ils ont besoin de leur maître, qui ne veulent pas s'en séparer. Yehi ratzon minefanecha, elle a dit que ce soit un effet de ta volonté. She'atartonim yakufu ala elyonim. Que ceux d'en bas l'emportent sur ceux d'en haut. C'est une prière très simple, d'une femme simple, mais qui a dit une vérité profonde. C'est-à-dire l'attachement au Rav, c'est-à-dire la volonté de le garder. Deuxième exemple, un peu plus grandiose, dans la Torah, fait remarquer Rashi, il y a trois fois marqué « Be'etzem ayom azeh ». Et ce fut en plein jour. C'était quand? Quand Noah a terminé la construction de l'arche, et que bien sûr pendant 120 ans qu'a duré la construction, tout le monde se moquait de lui, le raillait en public, et qu'il disait à tout le monde, il va y avoir un déluge, et qu'on se moquait de lui, on a même voulu le tuer, l'empêcher de construire ce bateau. Alors, il a pensé que c'était plus prudent d'entrer dans l'arche la nuit, pour éviter les incidents. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu rentreras dans l'arche, Be'etzem ayom azeh, ce jour-là, en plein jour, et qu'ils essayent de t'empêcher de rentrer, disait Dieu aux hommes. Ça veut dire, on va voir qui est le plus fort. Si vraiment ils veulent t'empêcher de rentrer, eh bien, je te ferai rentrer quand même. Premier exemple. Deuxième exemple, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, et que sans doute c'était plus prudent d'en partir la nuit avec l'extrême violence qui régnait en Égypte, alors que venait de se produire la plaie des premiers-nés, et que c'était le désordre le plus total, et que l'insécurité régnait dans les rues, et qu'on avait dit bien sûr, comme d'habitude, c'est la faute aux Juifs, alors il y aurait pu avoir une émeute, des crimes perpétrés contre les Juifs. Akadosh Baruch Hu a dit à Moïse, vous sortirez d'Égypte, be'etzem ayom azeh, en plein jour. Et quiconque veut vous empêcher, qu'il essaye. Et voilà ce qu'était la sortie d'Égypte. On est sorti au nez à la barbe des Égyptiens, qui étaient incapables de nous arrêter. Et on est sorti sans le moindre incident. Comme dit le Talmud, pas un enfant ne s'est égratigné, pas un vieillard n'est tombé, pas une femme enceinte n'a avorté. Tout le monde est sorti en bonne santé. Incroyable. En plein jour, après 210 ans d'esclavage. Troisième et dernier exemple. Lorsqu'arrive la fin de la vie de Moïse et que Dieu lui dit « Monte sur le mont Nebo », etc. et qu'il lui a dit « Maintenant ton heure est arrivée », il lui a dit de monter « Be'etzem ayom azeh ». Alors le Talmud nous raconte que les enfants d'Israël se sont mis autour de lui et que HaKadosh Baruch Hu a dit « Monte en plein jour » et qu'ils essayent d'empêcher. Alors autant on peut comprendre que Dieu dise cela à la génération de Noé, où il s'agissait humainement d'empêcher quelqu'un de construire un bateau. Je comprends qu'ils le disent au moment de la sortie d'Égypte, où il s'agissait humainement de retenir une masse de main-d'œuvre gratuite, qu'on appelait les esclaves dans l'Antiquité, et qui voulait partir et qu'on pouvait retenir. Mais comment peut-on retenir quelqu'un de mourir? C'est impossible. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un mourir, mais on a un sentiment d'impuissance incroyable. Eh bien, c'est ce qui se passait là. Et Dieu dit qu'ils essaient de m'en empêcher. Et le Midrash dit que les enfants d'Israël se sont mis en cercle autour de Moshe Rabbeinu et lui demandaient de ne pas monter. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non pas qu'ils l'ont retenu physiquement, ils savaient que ça ne servait à rien. Mais ils ont dit, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, l'homme qui a fait tomber la manne, l'homme qui nous a fait traverser le désert, etc. Et ils ont cité tous les mérites de Moïse. Et ils ont dit, nous le laisserions partir. Alors ici, on voit l'idée. On voit la même idée que Rabbi Tarfon et Rabbi Joshua et Rabbi Lazar ben Azaria et que Rabbi Akiba. C'est quoi? C'est le sentiment de gratitude qui créait la capacité d'empêcher quelqu'un de quitter ce monde. Ça veut dire que la reconnaissance à l'égard du maître, c'est ce qui lui permet de ne pas mourir. Ça veut dire que si on a à l'égard de nos rabbanim, ce sentiment de reconnaissance, de gratitude, on leur prolonge la vie. On les garde avec nous le plus possible. Parce qu'on dit comment on va faire sans eux. On a besoin d'eux. Et c'est en ce sens que quand un grand rave nous quitte, on se sent malheureux. Doublement malheureux. Parce qu'à la fois lui il est parti et puis nous on est resté. Et qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait pour le retenir. Et comme ça, dans ma vie, j'ai vécu beaucoup d'événements de ce genre, où on mesure après le départ de quelqu'un la valeur qu'il avait. Alors on voit que de notre vivant, on peut parfaitement réussir à faire vivre beaucoup de gens. Comment ? En montrant combien on a besoin d'eux. Prenons l'exemple de la Torah. Vous vous souvenez que Eliyahu Hanavi, le fameux prophète Élie, était allé visiter dans ses pérégrinations une veuve qui avait juste un enfant. Et elle le recevait toujours très gentiment, très chaleureusement, très généreusement. Puis un jour, on vient chercher Eliyahu Hanavi parce que ce malheureux enfant était mort et que cette veuve se retrouvait désormais sans personne. Alors Eliyahu Hanavi prévenu immédiatement, qu'est-ce qu'il fait ? Il prie. Et le texte de sa prière est tout à fait extraordinaire. Il dit ainsi, « Ala almana sherani mitgorech imma are ota lehamit et bena » Il dit à Dieu, écoutez bien, cette veuve chez qui je me rendais, qui me recevait, tu as fait du mal au point de prendre son fils unique. Qu'est-ce qu'il a dit, Eliyahu Hanavi ? Il a exprimé la reconnaissance qu'il avait à l'égard de cette veuve. C'est ce qui a permis à sa prière d'être écoutée. Ça veut dire que quand on sent que l'on doit quelque chose à quelqu'un, y compris pour cette personne, alors on a une force extraordinaire. Ça veut dire qu'un père, une mère qui prient pour leurs enfants, ils éprouvent quelque chose à l'égard de leur enfant. Ce n'est pas du simple amour, c'est de la reconnaissance. Un enfant à l'égard de ses parents, il a une force extraordinaire dans sa prière. Ce n'est pas du simple amour, c'est de la reconnaissance. Qu'est-ce que je dois à mes parents? La vie. Qu'est-ce que mes parents me doivent? Le bonheur d'avoir été père ou mère. Cette reconnaissance-là donne une force à la prière. Ça veut dire que si on veut que nos prières soient écoutées, il faut chercher à l'égard de chacun qu'est-ce qu'on lui doit. Et je vous assure que dans ma vie, j'ai prié pour des gens parfois, et j'ai souvent cherché qu'est-ce que la personne m'avait apporté. Et j'ai remarqué qu'à notre petit niveau, la prière était écoutée davantage. Et qu'en fait, c'est une grande leçon, que finalement, les prières qui ne sont pas écoutées, on les vit un peu comme des échecs. Mais le premier échec qu'il faut ressentir, c'est de n'avoir pas été capable d'éprouver de la reconnaissance pour quelqu'un. Et en fait, on devrait l'éprouver homme pour sa femme, femme pour son mari, enfant pour parent, ami pour ami, etc. Maître pour élève, élève pour maître. Car s'il est vrai qu'on a besoin du rave, le rave a aussi besoin des élèves. Et qu'un rave qui prie pour ses élèves, il a une grande force. Parce que grâce à eux, il peut enseigner la Torah. Grâce à eux, il est quelqu'un, lui, dans sa vie. Et il éprouve de la reconnaissance à l'égard de ses élèves. Et pas seulement les élèves à l'égard du rave. Et je crois que là, c'est une des plus grandes leçons qui sont contenues dans la Torah. Alors en fait, comment est-ce qu'on peut éprouver de la reconnaissance à l'égard du Rav? On peut l'éprouver soit en lisant ses œuvres, en écoutant ses cours, ou bien tout simplement en suivant son enseignement. Comme il est comme cela, ben moi je vais essayer d'être aussi comme ça. Et nos Chachamim disaient dans la Gemara que notamment un exemple qui est particulièrement frappant dans la Gemara de Hérouvin dit qu'un jour, on a demandé à Rabbi, mais à Rabbi pourquoi il était si grand dans la Torah. Il a dit, c'est parce que quand Rabbi Meir, mon maître, donnait un cours, je le regardais. Et alors ? Il dit, et par le fait de le voir, je m'instruisais davantage. Et Rabbi a ajouté, et avec ça, il y avait tellement d'élèves que moi je le regardais de dos, parce qu'il n'y avait pas de place. si je l'avais regardé de face. Vous voyez ? Ça veut dire que le fait de réaliser que la simple proximité est déjà un enseignement, c'est une des grandes leçons de la vie. Parce que du rav, on peut apprendre des tas de choses. Un jour, Rabbi Akiva est venu en retard au cours. Et il s'est excusé auprès de ses maîtres. Il leur a dit, c'est parce que en venant à la yeshiva pour assister au cours, il y a eu un mort dont personne ne s'occupait. Alors j'ai suivi le corps pendant quelques centaines de mètres. Vous savez ce que lui ont dit ses maîtres ? Tu aurais mérité la mort pour chaque pas que tu as fait. Si sévère ! Alors tout le monde comprend que c'est parce qu'il a perdu de l'enseignement. Parce que pendant la demi-heure, l'heure ou les deux heures qu'il n'est pas venu à l'étude, il a perdu un cours. Non. Les Tosfot, d'ailleurs le Rabbi Yaakov de Corbeil, vous connaissez Corbeil dans l'Essonne. Il y avait une yeshiva au XIIe siècle. Au XIIe siècle, il y avait une yeshiva, une très grande yeshiva, comme dans beaucoup d'endroits de la région parisienne, notamment. Et un Rav, qui est mort il y a quelques années, Rav Wasserman, qui était venu nous voir, Zichrono Livracha, ici, qui était venu d'ailleurs à ce cours ici du lundi. Un jour, ceux qui se rappellent, il y a longtemps est venu un vieux Rav, qui était extraordinairement impressionné. C'était le lendemain de Yom HaTorah. On avait quand même fait le cours et il était venu pour Yom HaTorah, je l'avais demandé de venir. Et quand il a vu la foule au Bourget, il a été tellement ému qu'il n'a pas pu parler, il a pleuré. Il est venu pour parler, il n'a pas pu. Il avait 80 quelques années. Et ce Rav m'a dit, vous avez à Paris la bénédiction des grands rabbinim qui ont vécu ici. Voilà pourquoi c'est une ville dans laquelle la Torah, elle prend facilement. À Paris, c'est une ville dans laquelle la Torah prend facilement. Dès qu'on ouvre un Beit HaMidrash, bon, Hachem, il y a des élèves. Pourquoi ? Dans tous ces endroits, il y avait des rabbanim, de très grands rabbanim. Eh bien, le riz de Corbeil, comme on l'appelait dans les Baalei Tosfot sur cette Gemara que je viens de citer, disait que le reproche qui a été adressé à Rabbi Akiva, c'est de ne pas avoir profité, non pas de l'enseignement du Rav, mais de son chimouche, c'est-à-dire de sa proximité. De ne pas voir comment le Rav réagissait. Observer le Rav, c'est veut dire voir comment il écoute, comment il répond, comment il marche, comment il vit. Et ça, c'est un enseignement. Et c'est de cela dont il tenait responsable Rabbi Akiva pour ceux qu'il avait pu perdre. Bien sûr, Rabbi Akiva a pris la leçon. Et bien sûr que la leçon a été donnée parce qu'il y avait d'autres personnes pour s'occuper du mort. Et il a pensé que c'était bien de les accompagner. Mais il s'est trompé. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté sur le Har Sinaï, tout le monde est resté au pied de la montagne, comme dit le texte. Même les 70 anciens, tous, sauf un, c'est Josué. Yehoshua qui deviendra le successeur de Moshe. Et quand dans la Gemara on explique pourquoi il est devenu le successeur de Moshe, on dit dans la Torah, lo yamush mitoch haohel. Il bougeait pas de la tente. C'est-à-dire qu'il accompagnait son Rav partout. Et on dit qu'il avait mérité de monter sur la montagne du Sinaï et que dans un creux d'un rocher, il avait attendu la descente de Moshe Rabbeinu. Et la Gemara dit que la manne est tombée spécialement pour Josué là où il était. Il y a eu de la manne dans tout le camp d'Israël, et il y avait de la manne juste pour Josué là où il était. Et on dit pourquoi il a fait tant d'efforts, qu'il est resté 40 ans perché dans un trou de montagne. Il a dit pour ne pas perdre quelques pas avec Moïse. Parce que c'est vrai que voir redescendre Moshe Rabbeinu de la montagne avec la Torah dans la main, ça valait le coup d'œil. Surtout que personne d'autre ne l'a vu. Pourquoi ? Parce que les tables de la loi se sont cassées avant d'arriver en bas. Le seul homme au monde qui a vu Moïse descendre du Sinaï avec la Torah, c'est Yoshua. Et il a mérité ça. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu faire quelques pas de plus avec son maître. Il n'a pas voulu le quitter. Et vous connaissez bien, quand nous avons fait notre cours à l'époque sur le couple, etc., on avait cité l'exemple d'un rave qui avait trouvé son élève sous son lit dans la chambre à coucher. Il a dit, qu'est-ce que tu fais là ? Et l'élève lui a dit, c'est la Torah, je suis venu apprendre. Il a dit, tu pousses un peu, d'accord ? Mais la démarche n'était pas indécente. Elle n'était pas malsaine. Il disait, il voulait apprendre comment le rave se conduisait avec sa femme. Et en fait, le rave ne lui a pas fait reproche de cela. Il lui a simplement dit qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Mais qu'en soi, ce n'était pas une démarche malsaine. Et qu'on peut demander à son rave tout. Et c'est la raison pour laquelle, chez nous, il n'y a jamais eu de révolution. J'en remets 68 dans les yeshivot. Pourquoi ? Parce que le rav, il accepte d'être à la portée des élèves. Il n'est pas sur son piédestal. Et franchement, une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop donner les cours ici, c'est que je suis assis un peu plus haut que vous. Vous voyez, c'est pas des blagues. Ça me dérange un peu. Je voulais faire un trou là, mais ils n'ont pas voulu dans la synagogue. Parce que j'ai vu la synagogue du Maharal de Prague, et le rav, il se tenait plus bas que les élèves. Je trouvais ça très beau. C'est une des plus vieilles synagogues d'Europe, encore construite. 12e siècle et retapée au 16e siècle. D'accord ? Alors, pour dire quoi ? Que cette abolition des distances, c'est ce qui crée la capacité de faire passer un enseignement. Et c'est vrai que c'est très dur pour un rav d'être en permanence traqué par les élèves, qui ne le laissent pas tranquille. Et souvent, quand des fois je m'énerve après les juifs, je pense à des gens comme Rav Char, qui n'avaient jamais un moment d'intimité, jamais un moment de tranquillité. Il y avait toujours quelqu'un qui avait un problème. Et je me dis au fond, quel bonheur de n'être jamais seul, même quand on en a envie. Il vaut mieux être trop entouré que trop délaissé. Et en fait, c'est cet enseignement-là que tous les rabbanim du peuple juif ont essayé de nous transmettre dans toutes les générations. Je voudrais enfin dire une chose, c'est que ceci est valable, quelle que soit la valeur du rav. On parle des gdolim. Il y a parfois, dans notre génération, des gens qui ont appris un peu la Torah avec un rav. Puis après, ils sont devenus un peu plus religieux. Puis après, ils sont devenus très religieux. Puis leur premier rav, ils l'ont regardé avec condescendance. Parce qu'ils ont dit, bon, lui, il m'a appris juste le début. J'ai écouté une cassette. Et bon, au Hachem, en ce qui vous concerne, il y a eu des dizaines de milliers d'élèves qui sont passés dans les cours, notamment celui-ci. Puis après, bon, ils vont étudier. C'est une très grande joie pour nous. Il y en a qui reconnaissent, tout simplement, que quelque part, ils sont toujours attachés. Puis d'autres qui ne reconnaissent pas. Alors, quand on voit la joie que nous procurent ceux qui reconnaissent, on essaye d'éviter la peine que pourraient nous provoquer en nous ceux qui ne reconnaissent pas. Mais au fond, c'est parce que peut-être ils ne savent pas que ce qu'a dit la Gemara, c'est quel que soit le maître. Et le Talmud dit ainsi, « Lama lo nitparashut shemotehem shel azekenim » Pourquoi est-ce que la Torah a tu le nom des 70 anciens de l'époque de Moïse ? On ne connaît pas leur nom. Pour ne pas qu'on dise « un tel était plus grand qu'un tel ». Pour ne pas qu'on dise « ah oui, non, mais lui, parce qu'il est grand ». Genre, si notre rabbin il était très grand, nous on le vénérerait. Si vraiment notre rav c'était Moshe Rabbeinu, d'accord, mais un petit rabbin de banlieue. Ouais, on le méprise un peu. Oui, on l'oublie. Et ça, c'est une grave faute. Et chez les chassidim, on racontait qu'un jour, un jeune d'une yeshiva avait commencé à étudier, à apprendre l'hébreu au départ avec un rav. Puis après, il était allé dans une yeshiva, il était devenu un grand sage en Torah. Et puis, il est revenu chez lui. Et puis, il est arrivé le soir tard dans son petit village. Toutes les lumières étaient éteintes, sauf la lumière de son vieux rabbin. Alors, il a dit, tiens, je vais passer lui dire bonjour avant de rentrer chez moi. Après un long séjour à la yeshiva. Mais il a voulu lui faire une petite surprise. Alors il frappe à la fenêtre au lieu de frapper à la porte. Le rav entend le bruit, il était en train d'étudier, il se lève et il demande sans ouvrir qui est là. L'autre lui dit, c'est moi. Bon, le rav il entend ça et il retourne s'asseoir. Au bout d'un moment, l'élève refrappe à la fenêtre. Le rav se relève et demande qui est là. L'autre dit, c'est moi. Et le rav retourne s'asseoir. L'élève refrappe une troisième fois. Et le rav se relève une troisième fois. Il demande qui est là. Et l'autre dit toujours, c'est moi. Le rav allait s'asseoir lorsque l'élève dit, c'est moi. Et il donne son nom. Alors, parce qu'il en avait marre de voir le rav se retourner s'asseoir. Alors le rav ouvre la fenêtre et il dit, il n'y en a qu'un qui a le droit de dire c'est moi. C'est celui qui a dit, c'est moi l'Éternel ton Dieu qui s'est fait sortir d'Égypte. Alors on dit que l'élève, au lieu de rentrer chez lui, il a repris le train dans la direction de la yeshiva. Et il a compris qu'il n'avait pas suffisamment étudié et qu'il avait encore besoin de son vieux petit rabbin qui lui avait appris à lire. Et qu'en fait, que le chimouche du rav, c'est ça. C'est considérer que tout ce que l'on doit à tout le monde fait de nous des êtres infiniment reconnaissants à l'égard de tous et respecter même vos professeurs du Talmud Torah que vous avez chahutés quand vous aviez 10 ans et qui, à vos yeux, peut-être sont de vagues ignorants. Peut-être que c'est grâce à eux que vous ferez un jour un parcours dans la vie. Et que donc savoir reconnaître à chacun sa valeur, ça fait partie de notre éthique à nous. Et la Torah nous a dit enfin, lorsque tu voudras connaître la Torah, etc., tu iras chez les sages de ta génération. Et le Talmud, de toute façon, demande où tu veux qu'il aille. C'est des sages de sa génération, de quelle, la génération d'avant, ils sont déjà morts. La génération d'après, ils ne sont pas encore nés. Pourquoi la Torah dit « Asher yeh bayamim ahem » qui seront ces jours-là, alors que tu n'as pas le choix? Pour nous dire que les sages de ta génération, c'est les sages dont tu as besoin. Et le Rav Shach avait une parole très sage. Il disait, moi, je pousse les gens à l'étude de la Torah, l'étude. Et il disait comme ça, hein, jusqu'à ma mort. Après ma mort, vous pourrez faire différemment. Ça veut dire que ce Rav sentait, comme je vous l'ai expliqué ce soir, que l'urgence, c'était l'étude. Mais ce Rav sentait que peut-être un jour viendra une génération où on pourra aussi faire autre chose. Et peut-être que cette génération viendra dans laquelle beaucoup de gens revenant vers la Torah, ils ne pourront pas tous étudier, faire que l'étude, et ils seront agrégés d'université, pour autant Talmid Chacham, sage en Torah, ils seront artisans et pour autant Talmid Chacham, ils exerceront un métier, ils seront Talmid Chacham, ça sera possible. Ce n'était pas possible de son vivant. C'était quelque part comme si on l'avait trahi, parce qu'il sentait que lui, il avait devant Dieu cette responsabilité. Et je crois que la plus grande des responsabilités, c'est de sentir jusqu'où elle va. Et dès lors qu'elle s'arrête avec sa mort, il avait dit l'essentiel. Et que ce qui compte, c'est de continuer et de continuer après. J'ai dit tout à l'heure que le Rav avait besoin de l'élève. Et moi, je me souviens qu'une des dernières fois où j'ai vu le Rav, je sentais qu'il était fatigué, alors je lui ai dit, Rav, je ne veux pas vous embêter à chaque fois. J'aimerais que vous me disiez auprès de qui je peux aller poser des questions pour ne pas vous fatiguer. Il m'a dit, non, viens chez moi. Il n'a pas voulu me laisser aller ailleurs. Et j'ai pensé à Rabbi Yochanan. Vous connaissez tous l'histoire que je vous ai racontée de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un Rav qui avait donc été fait prisonnier par des bandits. Et ce rave était très beau. Et les bandits ont dit, tiens, au lieu de le tuer, on va l'amener à notre chef de bande. Peut-être ça peut servir. Ils lui ont dit, écoute, il est tellement beau ce rabbin, hein, qu'on a peut-être besoin d'un playboy pour faire des mauvais coups des fois. Ça peut servir. Alors le chef de la bande, il dit au rave, écoute, je vais te laisser la vie sauf à une condition, c'est que tu fasses partie de notre bande pour faire les coups ensemble. Alors le rave dit, d'accord. Moi, j'ai, si tu veux, une condition juste. Il dit laquelle? Il dit, c'est que tu fasses partie de ma bande aussi. Or, le bandit dit, quoi, toi aussi? Il dit, oui, moi aussi, j'ai une bande. Je viens chez toi, tu viens chez moi. Le rave dit, il trouve ça très le brigand, il trouve ça très élégant. Il dit, d'accord, top là. Et le rave, il a ajouté un petit mot qui a tout changé. Il a dit, si ça t'ennuie pas, on commence par la mienne. De bande. Et l'autre, il a trouvé le rave tellement charmant, il a dit, d'accord. Et il l'a emmené à la yeshiva, il n'est jamais sorti. Et il est devenu un grand chacham, le chef des brigands. Il s'appelait Resh Lakish. Et Resh Lakish était devenu celui qui étudiait la Torah avec ce rav de Rabbi Yochanan. Et il est devenu bientôt l'un des chachamim les plus aiguisés par son esprit. Et voilà qu'un jour va arriver quelque chose d'incroyable. Un jour, on parlait du couteau avec lequel on avait le droit de faire la circoncision. Et les sages étaient en train d'étudier. Et ils se demandaient si tel couteau était cachère. Alors il y en a un qui se tourne vers Resh Lakish et lui dit « Tiens, toi Resh Lakish, tu t'y connais en couteau? Tu peux nous dire si... » Et Resh Lakish en a été meurtri. Il a tout d'un coup réalisé qu'on n'avait pas oublié qui il était. Et que si celui qui lui a posé la question a commis une faute grave, il a malgré tout en a été profondément meurtri, il est tombé malade et il est mort. Et de là-bas, les Haramim disent « On peut tuer quelqu'un par une parole méchante, blessante. » Et lorsque Rabbi Resh Lakish est mort, Rabbi Yochanan est devenu littéralement fou. Pourquoi? Parce que dans la maison d'études, les élèves les plus aguerris, les plus sages, essayaient d'étudier avec lui. Et chaque fois que Rabbi Yochanan disait quelque chose, l'élève disait « Ah oui, tu as raison. Hein. Ah oui, ce que tu dis, c'est vraiment extraordinaire. » Et il disait « Mais ce n'est pas ce que me disait Resh Lakish. Quand je disais quelque chose, Resh Lakish, vous savez ce qu'il faisait? Il refusait ma réponse. Et il posait des questions. Il démolissait mon raisonnement. Il me rendait plus sage. » Il affûtait mon esprit. Où es-tu, Resh Lakish, où es-tu? Et on dit que Rabbi Yochanan errait dans les rues en criant Resh Lakish, reviens, Resh Lakish, reviens. au point que les Chachamim ont eu de la peine pour lui, et que peu de temps après, c'est Rabbi Yochanan qui a quitté ce monde. De là-bas, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que le Rav, il ne peut pas vivre sans son élève. C'est-à-dire, s'il n'y a pas quelqu'un avec qui il peut lui-même s'élever, c'est lui qui est atrophié. Et c'est cette génération-là que je crois qu'il nous faut maintenant construire. Alors, je voulais conclure de la façon suivante, en vous disant deux choses. D'abord, ce qui est certainement, pardonnez-moi, n'y voyez Bémet, si je ne le pensais pas, je ne le dirais pas, la moindre trace de vanité dans ce que je dis. Un jour, j'étais allé voir le Rav Char pour lui demander si j'avais le droit de quitter ma communauté. C'était il y a une quinzaine d'années, un peu moins, où j'étais grand rabbin de Marseille, et j'étais très très content de ce que je faisais, je crois à la communauté aussi, et j'étais heureux. Et voilà qu'on vient me chercher pour aller à Paris. Ils étaient déjà venus 7 ans avant pour me demander d'être grand rabbin de Paris, et j'avais refusé. J'avais demandé à mes rabbinim, à Rav Moshe Soloveitchik, Zeret Tzadik Livracha, dont le Rav Shach m'avait dit, c'est lui qu'il faut écouter pour l'Europe, il connaît tout en Europe, et j'allais toujours chez ce Rav de Zurich. Et il m'a dit, c'est trop tôt, reste encore à Marseille. Quand 7 ans après, le problème s'était reposé, je suis retourné. Et j'ai posé la question. Et le Rav m'a dit, Rav Char, il faut que tu y ailles. Il dit, ça va être facile, c'est comme un sacrifice qu'il faut que tu fasses, il employait les mots comme ça, Korban she'anachnu makrivim, mais il faut que tu ailles. Et ceux qui me connaissaient à l'époque savaient que j'y allais pas du tout de gaieté de cœur. Pour des gens superficiels, venir de Paris, de Marseille à Paris, c'était des armes à la promotion, un poste plus important. Et moi, j'étais heureux avec mes petits juifs. Et j'oublierai jamais que lorsque je suis revenu de cet entretien, ils m'avaient fait une surprise incroyable, les Marseillais. Ils avaient rempli toute la synagogue. Il y avait 1500 personnes. Et ils ont fait une manif pour pas que je parte. Et moi, je savais pas, quelqu'un était venu me chercher à l'aéroport, genre, tiens, on va juste passer à la Sina avant de rentrer. Puis je tremble là-dedans, je trouve une synagogue bourrée de monde et des gens qui voulaient pas que je parte. Bref, voilà que Rav m'avait dit, il faut que tu ailles. J'avais avec moi mon Rosh Yeshiva, Rav Nissim Toledano, chez Ichye, et le Rav Char me demande alors quelque chose. Il me dit, mais je voudrais que tu me te demandes si tu es prêt à continuer à aider la ville de Marseille, et notamment de les yeshivot que tu as créés là-bas, les institutions que tu as créées là-bas. Et moi, je dis, bien sûr, avec plaisir, je le ferai, béni nader. Or, le Rav Char, tenez-vous bien, se lève, il me tend la main, il me dit, fais-moi une bénédiction. Moi, je suis resté cloué. Mon Rosh Yeshiva, qui était à côté de moi, il se tourne vers le Rav, il dit, écoutez, Rav, vous savez, Rav Citruc, c'est quelqu'un de bien, genre, ne vous moquez pas de lui. Il dit, non, je suis très sérieux. Parce que quand on s'occupe des autres, le mérite des autres est à côté de nous. Kolam zaket arabim, srut arabim talouibo, dit la Gemara. Et il a demandé que je lui fasse une biracha. Alors j'ai un moment voulu écrire sur ma carte de visite celui qui a béni le Rav Char. Je ne sais pas s'il y en a eu, mais je voulais que vous sachiez que pour moi c'était un moment extraordinairement privilégié, dans lequel j'ai mesuré l'humilité de ce grand maître, et dans lequel j'ai mesuré surtout combien il était attaché, parce que jamais quelque chose de Torah ne tombe, et qu'on fasse tout pour essayer de le maintenir. Et chaque fois que quelqu'un lui demandait « je voudrais faire une yeshiva à tel endroit », il disait « fais ». Et il disait « mais Rabbi, j'ai pas les moyens ». Il dit « mais les moyens viendront, c'est pas un problème, lance-toi ». Et tous ceux qui l'ont écouté, qui se sont lancés, n'ont jamais fermé leurs institutions. Pourtant, ils sont tous fauchés, mais ça marche. Allez comprendre pourquoi ça s'appelle la beracha. La dernière chose que je voulais vous dire enfin, c'est pour le futur. Il y a un autre Rav dans le monde qui est vivant, Baruch Hashem, et qui a le même âge que le Rav Char. C'est Rav Kadouri. Il a 107 ans. C'est un Mekoubal. Et ce Rav, il avait 7 ans lorsqu'est mort un très grand maître qui s'appelait le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï était un très grand maître qui vivait à Bagdad. Vers la fin du 19e siècle, il a quitté ce monde. Et il a fait une beracha à ce petit garçon. Et il lui a dit à ce petit garçon, qui allait devenir Rav Kadouri, je te bénis de 3 choses. 1, tu ne seras jamais malade. 2, tu vivras 120 ans. 3, tu verras le Mashiach. Rav Kadouri, que je connais bien personnellement, n'est jamais tombé malade. Il a l'âge qu'il a. Il se meut très lentement. Mais il est toujours jovial. Je suis allé lui rendre visite le vendredi après-midi. Il prend un mikvé dans de l'eau bien chaude. Il kiffe grave. Après le mikvé, il prend une petite cigarette. Il kiffe grave. Après, il prend un petit gâteau. Il kiffe grave. Et moi, j'étais là, j'ai dit, c'est quand même extraordinaire. Oui. Il a 107 ans. La bracha première s'est accomplie, Baruch Hashem. Je souhaite que la deuxième s'accomplisse et que la troisième s'accomplisse. Ce qui veut dire qu'on a au maximum 12 ans et demi à 13 ans pour que le Mashiach vienne. Or, je trouve que ce serait dommage de ne pas être prêt pour ce moment-là, puisque les prophètes l'ont promis, puisque dans les cours précédents, on a expliqué qu'on était vraiment dedans et que là, on a un petit signe qui nous prouve que vraiment on approche et que ce que l'on peut vouloir pour toute notre communauté, c'est tout simplement qu'elle soit consciente de la densité de l'événement et qu'elle se prépare et elle saura que quand ça viendra, ce sera par le mérite de tous ceux qui sont partis, dont le Rav Char, Zecher Tzadik Livracha, et de tous ceux qui sont restés pour l'attendre sans jamais s'impatienter. Et j'aimerais que nous soyons de cela. Voilà.